VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 20 septembre 2022. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous au sommet du journal. Les dirigeants de la planète vont se succéder à partir d'aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président Macky Sall du Sénégal a donné le coup d'envoi pour les pays africains.
Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire.
Macky Sall, président du Sénégal et de l'Union africaine, que nous écouterons donc dans ce journal. Une personne meurt de faim dans le monde. Toutes les 4 secondes dénoncent plus de 200 ONG dans une lettre ouverte. Les rebelles du Tigré dénoncent une offensive conjointe de l'Éthiopie et de l'Érythrée. L'ONU réclame une enquête impartiale sur la mort en Iran de Mahsa Amini et s'alarme de la répression des manifestations. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte aujourd'hui à New York. Au programme de cette première journée, les discours du Sénégal, de la RDC et de la Centrafrique, les précisions avec Deli Diko.
Le débat général à la tribune de l'ONU a été lancé par le discours introductif du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Le diplomate a fait un état des lieux et mis en garde contre l'aggravation des nombreuses crises et conflits. Il a évoqué aussi le pouvoir d'achat en baisse, les inégalités grandissantes, les problématiques liées à l'environnement et appelé les dirigeants mondiaux à œuvrer d'urgence.
Notre monde est en péril et paralysé. Les divisions géopolitiques sapent le travail du Conseil de sécurité, remettent en question le droit international et la confiance des gens dans les institutions démocratiques et menacent toutes les formes de coopération internationale. Nous ne pouvons pas continuer ainsi.
Le premier chef d'État à s'être exprimé ce matin est le président brésilien Jair Bolsonaro. Il a été suivi du président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Il a rappelé que le continent est déterminé à travailler avec ses partenaires et souligné que l'Afrique ne doit pas être déchirée sous l'influence des grandes puissances.
Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire, qu'elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunité ouvert à tous ses partenaires sur une base mutuellement bénéfique.
Le président sénégalais a appelé les pays riches à financer l'adaptation des pays africains au changement climatique à quelques semaines de la COP27, la conférence sur le climat qui doit se tenir en Égypte en novembre. Au programme de la journée également, le discours du président français Emmanuel Macron, puis ceux du président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Dili Diko, VOA Afrique, New York.
Après donc le secrétaire général, pendant plusieurs jours, des dizaines de chefs d'État et de gouvernement vont prendre la parole lors de cette grande messe diplomatique annuelle qui reprend en personne après 2 années perturbées par le Covid-19. Le président américain Joe Biden entend aborder lors de l'Assemblée générale des Nations unies la question d'une réforme du Conseil de sécurité devenu un cheval de bataille pour les Américains depuis l'invasion de l'Ukraine, a indiqué aujourd'hui Jake Sullivan, son principal conseiller diplomatique. Joe Biden va également faire de nouvelles annonces significatives sur la manière dont les États-Unis vont investir contre l'insécurité alimentaire, a encore indiqué le conseiller. À la veille donc de la tenue de la 77e Assemblée générale de l'ONU, plus de 200 ONG ont demandé aux dirigeants mondiaux d'agir pour stopper la faim. Ces organisations estiment qu'une personne meurt de faim toutes les 4 secondes dans le monde. Le point avec Eric Manirakiza.
Les organisations venant de 75 pays ont signé une lettre verte pour exprimer leur indignation face à l'explosion du nombre de personnes qui souffrent de la faim. Il est inadmissible qu'avec toute la technologie agricole, nous parlions encore de la famine au XXIe siècle, s'est indigné Moana Ahmed Ali Al-Jabali de la Yemen Family Care Association, l'un des signataires de la lettre. Selon lui, il ne s'agit pas d'un pays ou un continent, il s'agit de l'injustice de l'humanité tout entière. Au moins 345 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim aiguë, un nombre qui a plus que doublé depuis 2019, soulignent ces 238 organisations. Elles s'appuient sur les chiffres du dernier rapport en septembre du Réseau mondial sur les crises alimentaires, créé en 2016 par la FAO, l'OPAM, l'Union européenne et des ONG. Cette lettre ouverte est publiée à l'occasion du début de la réunion annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, où un grand nombre de dirigeants politiques, mais aussi de représentants de la société civile, se retrouvent pendant une semaine pour ce qui est considéré comme le plus important rassemblement diplomatique du monde.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité sur le continent, les rebelles du Tigré affirment que les troupes de l'Érythrée voisine ont lancé une vaste offensive et que de violents combats se poursuivent dans plusieurs zones le long de la frontière. Les détails avec Nani Talani.
L'Érythrée déploie toute son armée ainsi que des réservistes sur tous les fronts. Le commandement oriental d'Abiy Ahmed, des éléments importants du commandement nord-ouest et trois divisions de commando ont également été déployées aux côtés des forces érythréennes, a déclaré Getachew Reda, porte-parole du Front de libération du peuple du Tigré. Il indique aussi que les forces spéciales de la région éthiopienne d'Amara au sud ont rejoint cette offensive. Aucune autorité des forces citées n'a encore réagi à ces affirmations. Si elle est confirmée, c'est une escalade dans la guerre qui a déjà fait des millions de déplacés et engendré une catastrophe humanitaire dans le nord de l'Éthiopie. Samedi, le gouvernement canadien avait averti que l'Érythrée mobilisait ses troupes. Le ministre érythréen de l'information, Yeman Gebremeskel, a confirmé que son gouvernement a appelé certains réservistes, mais ne mobilise pas toute la population.
Un haut gradé de l'armée de la RDC, commandant des opérations militaires contre le groupe rebelle M23 dans l'est du pays, a été arrêté et écroué, ont annoncé aujourd'hui des médias locaux évoquant des soupçons de haute trahison. Le lieutenant général Philemon Yav Irung est incarcéré depuis lundi soir à Makala, la grande prison de Kinshasa, selon des sources sécuritaires qui ne donnent aucun détail sur le motif possible de son interpellation. 19 personnes ont été tuées à la mi-septembre en deux jours d'affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad, selon un nouveau bilan du parquet local. Ces violences entre communautés sont récurrentes dans le centre et le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Elles opposent généralement des éleveurs nomades arabes aux cultivateurs autochtones sédentaires qui les accusent de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. La police antiterroriste tunisienne a placé en détention Ali Larayed, ancien premier ministre et haut responsable du parti islamiste Ennahda, pour répondre de l'expédition présumée de djihadistes en Irak et en Syrie. Ali Larayed devrait comparaître devant un juge demain mercredi, selon son avocat. Ennahda nie les accusations, estimant qu'il s'agit d'une attaque politique contre un opposant au président tunisien Kais Saied. Ebola fait sa réapparition en Ouganda. Kampala a annoncé aujourd'hui la présence d'une épidémie qui a provoqué la mort d'un homme dans le centre du pays, 3 ans après le dernier décès recensé. En 2200 personnes avaient trouvé la mort en Ouganda au cours d'une épidémie dans le nord du pays. La ministre de la Santé a indiqué que les autorités ont commencé à vacciner les travailleurs de première ligne dans les zones frontalières avec la RDC. L'actualité hors du continent, la mort d'une femme de 22 ans en Iran après son arrestation par la police des mœurs a déclenché des manifestations à l'intérieur du pays et provoqué des critiques de la part de hauts responsables et dans le monde. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Mahsa Amini, 22 ans et originaire de la région du Kurdistan, dans le nord-ouest, a été arrêtée le 13 septembre à Téhéran par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés parce qu'elle n'était pas voilée. La jeune femme était en visite avec sa famille dans la capitale iranienne. Elle est tombée dans le coma après son arrestation et est décédée le 16 septembre à l'hôpital, selon la télévision d'État et sa famille. La police des mœurs est une unité chargée de faire respecter le code vestimentaire de la République islamique pour les femmes. Le président du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf, juge que la conduite de cette police doit faire l'objet d'une enquête. L'ONU a dénoncé la mort de Mahsa Amini et la répression des manifestations qui ont suivi, exigeant une enquête indépendante. Dimanche, la police a procédé à des arrestations et tiré des gaz lacrymogènes dans la province natale de la femme décédée, le Kurdistan, où environ 500 personnes ont manifesté. Des manifestations ont eu lieu hier lundi à Téhéran, dans plusieurs universités, et à Mashhad, deuxième ville du pays. En Iran, se couvrir les cheveux est obligatoire en public.
Les autorités installées par Moscou dans quatre régions d'Ukraine ont annoncé aujourd'hui la tenue dans l'urgence du 23 et 27 septembre de référendum d'annexion par la Russie en pleine contre-offensive ukrainienne. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré dans la journée des diplomates étrangers et des responsables de l'industrie de l'armement, signifiant qu'il garderait son cap. La Russie organise activement des simulacres de référendum en Ukraine, a dénoncé le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouamadou Mfa.
La Banque mondiale a exhorté les pays du Sahel à accélérer les réformes pour diversifier leur économie afin de limiter l'impact du changement climatique. Dans un rapport publié lundi, la Banque indique que les besoins de financement des 5 pays sahéliens d'Afrique en matière d'action climatique se chiffrent à plus de 30 milliards de dollars. La Banque recommande à ces pays de faire appel au secteur privé pour les investissements. En Somalie, après 4 saisons de pluies défaillantes depuis fin 2020 et avec une cinquième similaire qui s'annonce à partir d'octobre, le pays s'enfonce dans la famine. 7,8 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, sont affectées par la sécheresse, dont 213 000 sont en grand danger de famine selon l'ONU. 730 enfants sont morts dans les centres de nutrition entre janvier et juillet et plus d'un demi-million âgés de 6 mois à 5 ans souffrent de malnutrition sévère, précise l'UNICEF. Des ruptures d'approvisionnement d'engrais ne sont pas exclues en raison d'un marché mondial extrêmement tendu, a averti mardi le directeur France de Yara, leader européen des engrais azotés. De nombreux fabricants d'engrais azotés ont déjà réduit leur production face à la flambée du prix du gaz naturel, matière première de l'ammoniac, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la diminution des livraisons de gaz russe en Europe.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Ahmed Moussa forfait pour la rencontre amicale contre l'Algérie.
Oui, le Nigeria sera privé de son capitaine lors du match qui l'opposera à l'Algérie le 27 septembre. D'après son club turc de Sivas Sport, Ahmed Moussa s'est fracturé le bras gauche après avoir été expulsé d'un match de championnat contre Ankara Gusu. L'attaquant nigérien a cédé sa place à la 19e minute de la rencontre. Sa blessure s'ajoute à celle de Léon Balogun et Henri Onyekuru qui ne disputeront pas non plus cette rencontre pour cause de blessure.
La Russie continue de payer sportivement son invasion de l'Ukraine.
La Russie a été exclue du tirage au sort des qualifications de l'Euro 2024 de football le mois prochain à Francfort en Allemagne. C'est ce qu'annonce la Fédération russe et l'UEFA suite à l'invasion de l'Ukraine par les forces russes le 24 février dernier. L'instance européenne du football et la FIFA ont annoncé conjointement la suspension des sélections nationales et des clubs russes de toutes leurs compétitions jusqu'à nouvel ordre. Cette sanction s'est appliquée dès l'Euro féminin au début de l'été en Angleterre où le Portugal a remplacé la sélection russe et à la Coupe du monde masculine de football à venir au Qatar. Le tribunal arbitral du sport a rejeté en juillet le recours de la Fédération russe de football qui contestait cette suspension.
La MLS enquête sur une insulte raciste présumée proférée par un joueur de DC United.
L'incident présumé s'est produit à la 59e minute de la rencontre du championnat de la Ligue nord-américaine de football, remportée par l'Inter Miami 3-2 devant DC United, un accrochage au cours duquel le grec Taziarchis Fountas aurait traité de nègre le Jamaïcain Damien Louis, provoquant l'interruption de la rencontre par l'arbitre qui, après avoir averti les deux joueurs, s'est entretenu avec leurs entraîneurs Wayne Rooney et Phil Neville. Rooney a fait savoir qu'il sortait Fukas pour le remplacer et a tenu son engagement dès la reprise du jeu. Après plusieurs minutes de discussion tendue, Damien Louis n'a pas voulu s'attarder, expliquant « Il y a eu une plainte, je suis sûr qu'elle sera examinée. Je ne vais pas en dire beaucoup plus », a-t-il affirmé. Taxiarchis Funtas a lui nié catégoriquement avoir proféré cette insulte. La MLS a une tolérance zéro pour tout langage injurieux et offensant et nous prenons ces allégations très au sérieux, a déclaré un porte-parole de la MLS à ESPN.
Page de sport VOA Afrique signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat en 1990 de Boukari Dabo, un leader syndical étudiant, s'est ouvert hier à Ouagadougou. Leader de l'Association nationale des étudiants burkinabé, Boukari Dabo a été torturé à mort puis inhumé à Pau, à 150 km de Ouagadougou. Pour en savoir davantage sur Dabo Boukari et le contexte de son assassinat, Yakuba Ouedraogo a joint à Ouagadougou Fousseni Sourabié, le président de l'Union nationale des étudiants du Burkina Faso.
Dabo Boukari était un étudiant en 7e année de médecine. Il a été assassiné. Il faut rappeler qu'également, il était militant de l'Association nationale des étudiants burkinabés, qui était la seule section nationale de l'Union générale des étudiants burkinabés.
Pourquoi Dabo Boukari a été arrêté et torturé jusqu'à mort en mai 90?
En mai 1990, c'était dans un contexte d'état d'exception. Et il se trouvait que les étudiants se battaient au niveau de l'université de Ouagadougou pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Naturellement, à l'époque, les autorités, au lieu d'apporter des solutions aux préoccupations des étudiants, vont faire intervenir les forces de l'ordre sur le campus, notamment les militaires du Centre national d'entraînement commando qui vont procéder effectivement à des bastonnades et à des arrestations. Alors c'est dans cette logique effectivement que la course poursuite ira au-delà de l'université et va effectivement embraser des quartiers environnants de l'université, tels que les quartiers 1200 logements et quartiers zonants. Et c'est précisément au quartier 1200 logements que Dabo Boukari a été arrêté, conduit au conseil de l'entente où il sera torturé jusqu'à ce qu'il meure. Sur le conseil de l'entente, je le précise, c'était le 10 juillet des militaires du Centre national d'entraînement commando.
Le procès a finalement lieu 32 ans après, 32 ans donc de lutte estudiantine aussi, hein, pour que vérité et justice soient faites pour Dabo Boukari, comme vous avez l'habitude de le dire dans vos différentes associations. Comment vous réagissez à cela?
Nous pensons que la programmation de ce procès, la tenue de ce procès est déjà une victoire d'étape dans la vie du mouvement étudiant contre l'impunité et pour les libertés collectives. Parce que au-delà de tout, ça nous enseigne également que la constance et la fidélité des étudiants dans la lutte pour la vérité et la justice de Dabo Boukari a effectivement produit des fruits. Également, ça montre que dans notre pays, et tout ce qu'on se bat pour les libertés collectives, cette liste n'est pas vaine. Et enfin, ça montre également que lorsque on se bat et qu'on se sacrifie pour les causes, le peuple burkinabé tout entier ne vous oubliera jamais. Donc voilà pourquoi nous pensons que c'est vrai, nous n'avons pas encore obtenu la vérité et la justice, mais nous pensons déjà que c'est une étape vaine par vers la victoire. Donc voilà pourquoi nous estimons que c'est une victoire d'État pour nous.
Fousseni Sourabié, président de l'Union nationale des étudiants du Burkina.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République centrafricaine, une partie du corps judiciaire est en grève. Avocats, notaires et huissiers de justice ont cessé depuis ce lundi certaines de leurs activités. Ils entendent ainsi protester contre les messages de haine et les menaces proférées contre des acteurs et institutions judiciaires du pays par des organisations politiques proches du pouvoir. À Bangui pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
Depuis le déclenchement du processus de la rédaction d'une nouvelle constitution, les messages de haine refont surface dans le milieu politique centrafricain. L'opposition, qui s'oppose à une nouvelle constitution, a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'annulation du décret du chef de l'État créant le comité de rédaction. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la manifestation, le 8 septembre dernier, d'une organisation proche du pouvoir devant la Cour constitutionnelle. Les manifestants, qui veulent que la Cour ne traite pas la requête de l'opposition, ont menacé de s'en prendre physiquement au juge. Pour les avocats, notaires et huissiers de justice, cette pratique soutenue par le pouvoir doit cesser. Maître Émile Bison, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Centrafrique.
Nous assistons ces derniers temps à des violences de toutes sortes sur l'ensemble du corps judiciaire et qui n'est pas de nature à inspirer la sérénité pour ce pouvoir. Le dernier acte qui avait été posé, je le rappelle encore, c'est ces actes d'intimidation et des menaces de mort à l'encontre des membres de la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous ne pouvons continuer à croiser les bras et voir se dégrader le climat social en République centrafricaine. Nous voulons garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Lundi, les mécontents ont observé un sit-in devant le siège de la Cour constitutionnelle, mais ce mardi, ils ont été déguerpis par les forces de sécurité. On a eu un message de haine et d'incitation à la violence. Un groupe de femmes de la société civile a écrit au président de la République pour l'interpeller. Pamela Audrey Derome, présidente de la jeunesse centrafricaine et une d'entre elles.
Malheureusement, nous constatons qu'aujourd'hui, il y a même certaines autorités, certains dignitaires, c'est ceux-là qui se lancent aussi dans ces menaces, des injures et des mobilisations d'attaques contre des individus et personne ne réprimande et c'est comme si la violence est légalisée et que chacun devrait en faire autant.
Que fait le Haut Conseil de la communication face à la montée des discours haineux? José Richard Poimbi, son président, répond.
S'il y a la désinformation, s'il y a l'appel haine par voie de presse, c'est-à-dire exercé par les journalistes, c'est de la compétence ou de la responsabilité du Haut Conseil de la communication. Mais si vous avez les appels à la haine, les appels à la violence ou la désinformation par les simples citoyens de la République qui mettent ces informations en ligne, c'est de la responsabilité du parquet.
El-Hadj Laurent Moussagon Baba, président du Conseil national de la médiation, tire la sonnette d'alarme et met en garde contre les conséquences de cette nouvelle tension alimentée par les politiques.
Qui pense que la nouvelle technologie est devenue un moyen d'expression de la liberté, mais qu'il sache que ce moyen-là constitue un couteau à double tranche. S'ils ne savent pas utiliser ce moyen, il faut qu'ils sachent que leur avenir risquerait d'être compromis.
Face à ces messages de haine et de violence à l'égard des acteurs judiciaires, les avocats, notaires et huissiers de justice entendent faire des sit-ins jusqu'au vendredi prochain pour réclamer l'indépendance des institutions judiciaires. De son côté, le gouvernement opte pour l'instant pour le silence. Fumansi Pila, Bongui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Combien gagne un député national en RDC? Le principal opposant, Martin Fayoulou, a lancé un pavé dans la mare, jugeant inadmissible que dans un pays où 70% de la population vit avec 2 dollars par jour, un député touche 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin, toujours selon lui, 200 fois plus qu'un huissier. Dans une interview accordée à Marius Munga, Martin Fayoulou revient sur la guerre dans l'est de la RDC et les prochaines élections dans son pays.
Et je suis venu pour dire aux Congolaises, aux Congolais qui habitent les États-Unis et dire aux Américains, aux autorités américaines, aux institutions américaines de faire attention et de faire en sorte que les élections de 2023 soit des élections crédibles et impartiales.
Aux dernières élections, l'opposition s'est réunie pour présenter le candidat unique que vous étiez. Et aujourd'hui, vous avez été choisi par votre parti pour le représenter aux prochaines élections. Est-ce que vous allez y aller en cavalier solitaire ou vous comptez faire des alliances ou peut-être aussi proposer un candidat commun de l'opposition?
Tout dépend de comment les choses vont se passer. Et vous savez qu'au Congo, les alliances se font et se défont et nulle part au monde aussi un candidat président de la République va seul et il a besoin des autres. Comme on dit, l'union fait la force. Mais dans un premier temps, il faut que chaque candidat, chaque parti démontre de quoi il est capable.
Ça veut dire qu'on peut vous voir en alliance peut-être avec le parti de Joseph Kabila ou encore de Moïse Katumbi par exemple?
Nous disons tout parti ou toute personne qui regarde dans la même vision, qui a la même vision que nous, qui regarde dans la même direction que les idées. Donc on ne s'associe pas avec n'importe Tshisekedi.
Le président Tshisekedi a eu des mots très forts pour condamner justement l'implication du Rwanda dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Partagez-vous sa position ou en avez-vous une autre?
C'est moi qui ai commencé. J'ai commencé cette affaire depuis 2012.
Mais il a eu des mots très forts pour condamner.
S'il vous plaît, mots forts parce qu'il a été mis à nu. Quand nous disions que le Rwanda était là, que Kagame était en train de déstabiliser les Congos. Si vous vous rappelez, le 9 mars, au Sénat français, j'ai dit que c'était le Rwandais ou le président rwandais qui déstabilisait les Congos. À Kinshasa, on disait que non, mais Fayulu exagère. Mais quand il a vu que c'était trop, tout le monde en parlait, et même la population. Et quand nous avons dénoncé en disant que, et la population, et les éléments de l'armée, les généraux en parlent, c'est comme ça qu'ils sont venus dire que oui, le Rwanda est là.
Est-ce que vous partagez cette position de
Je n'ai pas à partager, j'ai dit qu'il m'a suivi. S'il m'a suivi donc, dans ma position,
ça veut dire que vous êtes...
dire que le Rwanda déstabilise les Congos. Maintenant, il faut qu'il prouve. Il faut qu'il prouve par les faits, les vrais faits.
C'était Martin Fayulu, leader de l'opposition congolaise.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, dans un contexte de crise et de défis intriqués. Washington Forum sera à New York, la capitale diplomatique mondiale, durant cette rencontre annuelle des leaders de la planète. Crises sécuritaires, alimentaires et sanitaires, nous évoquerons leurs implications en Afrique et dans le reste du monde. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a promulgué lundi une loi qui abolit la peine de mort, un acte historique selon la télévision d'État qui permettra à Malabo d'intégrer la communauté des pays de langue portugaise. Pour en savoir davantage, Mouamadou Mfa s'est entretenu avec le journaliste Fabien Essiane. Il est basé à Malabo.
Le code pénal que la Guinée équatoriale utilisait datait de l'époque coloniale. Dans ce code pénal était appliquée la peine de mort, la peine capitale. Et donc, le chef d'État du Guinée a estimé qu'il était temps qu'on abolisse cette peine en Guinée équatoriale. C'était une loi très attendue en Guinée équatoriale. Donc, sa promulgation et son adoption vient à point nommé parce que c'est l'un des rares encore en Afrique et en Afrique centrale qui applique encore la peine de mort.
Pourquoi, selon vous, Malabo abolit la peine de mort maintenant? Comment expliquer cette décision?
Si la Guinée équatoriale a promulgué cette loi et faisant la volonté des pays de la CPLP, communauté des pays de langue lusophone, de langue portugaise, c'est parce que la Guinée équatoriale souhaitait depuis 2016 être membre à part entière. Et donc, la condition qui lui avait été imposée pour être membre à part entière de la communauté des pays de langue portugaise, la CPLP, c'était que la Guinée équatoriale abolisse la peine de mort, parce que dans les pays membres de la communauté des pays lusophones, aucun pays n'applique la peine capitale. Et la Guinée équatoriale, voulant être membre, était le seul pays qui avait encore en vigueur la peine de mort. La Guinée équatoriale était un membre, un observateur de la CPLP, n'avait pas pu être membre. Et ceci avait été décidé lors du congrès de Luanda en décembre 2019. Et donc, on attendait le signal de Malabo.
Dans les faits, est-ce que la peine de mort était encore appliquée dans le pays?
Dans les faits, la peine de mort est encore appliquée en Guinée équatoriale. Lors du procès du présumé coup d'État de 2017, plusieurs hauts responsables côté guinéens avaient été condamnés à la peine de mort. J'y ai fait un tour à la prison de Guantanamo, qui est la plus crainte du pays. Vous avez encore des gens qui sont condamnés à mort et qui y vivent. Et cette abolition vient donc balayer tout ceci. Ça veut dire qu'on ne va plus condamner les gens à la peine de mort en Guinée équatoriale à partir de l'adoption de ce code pénal.
Comment réagissent les activistes et organisations des droits de l'homme en Guinée par rapport à cette abolition?
Bon, les organisations des droits de l'homme en Guinée équatoriale réagissent avec prudence parce qu'on sait que le régime équatorial guinéen n'a jamais vraiment respecté sa parole. C'est-à-dire qu'il peut le faire pour faire plaisir à la CPLP, mais après, quelques années après, une fois qu'il est membre, réintroduit la peine de mort. Il y a des procès en cours dont les auteurs risquent des peines de mort. On verra donc si les verdicts rendus dans ces affaires ne prononceront pas la peine de mort. Même si, selon la loi, ce code pénal n'entrera en vigueur que 90 jours après sa signature, donc d'ici le mois de novembre.
Fabien Essiane, journaliste basé à Malabo. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur